La main de Mommy. La fille du pharaon revient chercher, après des millénaires, sa main momifiée. Londres, 10 février. À l'époque de la découverte de le tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois, on parlait avec terreur dans les milieux indigènes de la vengeance du pharaon dont les Européens venaient, au nom de la science, de profaner la sépulture. D'éminents égyptologues, dont on ne pouvait mettre en doute la bonne foi, se portèrent même garants de certaines manifestations apparemment toutes naturelles, mais qu'ils expliquèrent satisfaites, entre autres, la résurrection d'une momie de Pharaon dans un musée du Caire. Aujourd'hui, le comte Louis Hamon, grand voyageur qui a visité à peu près tous les pays du monde et dont la résidence londonienne est située dans Park Street, Portland Place, raconte une histoire plus extraordinaire encore que toutes les précédentes. Jusqu'en 1922, il avait en sa possession une main momifiée, âgée de 3000 ans. Et voici, de sa bouche, les circonstances dans lesquelles il devint propriétaire de cette relique et les raisons qui le poussèrent à s'en débarrasser il y a 2 ans. La même avait été donnée il y a 34 ans, dit le comte Hamon, par un Égyptien qui prétendait descendre d'une très ancienne famille de grands prêtres et qui disait que je l'avais guéri de la maladie. Et pour me prouver sa gratitude, il me fit un cadeau de ce qu'il avait de plus précieux chez lui, c'est-à-dire de la main momifiée d'une des 7 filles du pharaon hérétique qui régna avant Toutankhamon. La princesse en question s'étant révoltée contre son père, livra une bataille aux apostats qui la tuèrent au cours du combat et lui tranchèrent la main droite afin que celle-ci ne reposât jamais en paix avec le corps de la malheureuse. Le sarcophage de la princesse est déposé quelque part dans la vallée des rois, mais comme il l'avait juré, les hérétiques, la main momifiée a été transportée de par le monde pendant 30 siècles par des propriétaires successifs. Moi-même, je m'en suis jamais séparé au cours de mes voyages. Des gouttes de sang. Un jour, dans ma résidence d'Irlande, je m'aperçus que la main, dure comme de l'ébène et brune comme du tabac, avait changé de position. L'index était dressé vers le plafond. J'appuyais et le doigt cessa doucement sous la pression. Le jour suivant, je tâtais de nouveau la main. La chair en était tendre et, à ma grande stupéfaction, il y avait des gouttes de sang sur les articulations. Cela se passait en 1920. Au mois de mai de l'année suivante, la main, qui avait recouvré son état d'apathie complète, reprit les apparences de la vie. Et en 1922, elle saigna de nouveau. Comme je croyais être halluciné, je fis venir un notaire, un pharmacien et un ingénieur de mes amis qui certifièrent par écrit que la relique présentait bien toutes les apparences de la vie. Cet acte dressé par le notaire, le compte le montra au journaliste. Et un post-scriptum du pharmacien dit comment ce dernier tenait à la main, ça rendit à la main sa fermeté au moyen d'une solution de poise et de lac. Une effrayante apparition, au clair de la lune scintillante, dans ses atours brisants des portes de chêne, la fille du pharaon s'avance. En octobre de la même année, le comte et sa femme étaient sur le point de quitter l'Irlande, où la vie devenait intenable en raison des raids constants des Sinn Féiners. Déjà la presque totalité du mobilier avait été expédiée en Angleterre, lorsque la veille du départ, la main redevint sanguinolente. Nous pouvions l'emporter dans cet état, et le soir, les domestiques étant retirés, ma femme et moi décidâmes d'incinérer la relique encombrante. Je pris la main très doucement et la posai dans la cheminée où flambait la grosse bûche, tandis que la comtesse récitait une prière égyptienne sur l'âme des morts. Alors il se passa une chose inouïe, invraisemblable. La porte vitrée extérieure de la salle se brisa avec fracas, mais les battants de chêne de la porte intérieure étant fermés, nous crûmes à une visite nocturne des républicains. Et nous nous préparions à fuir lorsque cette deuxième porte, pourtant solide comme un roc, ploya. Ses vantaux se bombèrent comme sous la pression d'un géant et s'abattirent dans la salle avec un bruit terrible. Dans l'écran, nous vîmes le jardin pique un magnifique clair de lune. Et sur le porche, une femme, dont nous n'apercevions que la tête et les épaules, se tenait immobile. L'apparition s'avança vers nous et marcha droit vers la cheminée. Ainsi éclairée, elle se précisa. Sur la tête de l'Égyptienne, resplendissaient les ailes dorées d'un scarabée autour duquel se trouvait un serpent, emblème royal de l'ancienne Égypte. Cette coiffure jetait des feux éblouissants, ainsi du reste que les yeux fendus en amont du spectre et les joyaux de la ceinture qui encerclait sa taille. Devant le foyer, l'apparition se baissa, plongea les bras dans les flammes, puis les releva au-dessus de sa tête, et nous vîmes distinctement les deux mains jointes en forme de coupe. Déjà la princesse, je ne pouvais être qu'elle, marchant à reculons, se trouvait près du porche. L'apparition s'évanouit bientôt, mais pendant quelques instants, encore, ses yeux magnifiques, suspendus dans l'espace, nous regardèrent d'un air profond.